Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 16 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal de ce mardi. Le député du Parti libéral, Andrew Hastie, se dit prêt à démissionner si son parti n'abandonne pas l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Les réseaux sociaux recevront ce mardi des instructions sur la manière d'interdire l'accès aux moins de 16 ans à leur plateforme. Le gouvernement fédéral cherchant à améliorer la sécurité des jeunes adolescents. La première du Victoria, Jacinta Allen, est arrivée en Chine pour lancer la stratégie chinoise de l'État qui guidera ses relations avec la Chine pour les 5 prochaines années. Et on passe au journal de ce mardi. Le député du Parti libéral, Andrew Hastie, se dit prêt à démissionner ou à être limogé si le parti n'abandonne pas son objectif de zéro émission net de gaz à effet de serre d'ici 2050. Les commentaires de Andrew Hastie accentueront encore la pression sur la chef du parti, Susan Lee, qui a toujours affirmé vouloir laisser le processus d'examen post-électoral se dérouler avant qu'une décision ne soit prise sur la neutralité carbone. Les réseaux sociaux recevront ce mardi dans la journée des instructions sur la manière d'interdire l'accès aux moins de 16 ans à leur plateforme, le gouvernement fédéral cherchant à améliorer la sécurité des jeunes adolescents. La ministre des Communications, Annika Wells, et la commissaire à la sécurité électronique Julie Inmam Grant publieront les directives relatives au respect des lois sur la restriction d'âge. Ces directives obligeront les réseaux sociaux à détecter et désactiver les comptes de mineurs et à empêcher les enfants de se réinscrire. À compter du 10 décembre prochain, les plateformes qui ne prendront pas de mesures raisonnables pour se conformer à la loi s'exposeront à des amendes pouvant atteindre les 49 millions de dollars. Les réseaux sociaux ne seront toutefois pas tenus de vérifier l'âge de tous les utilisateurs, car des vérifications systématiques pourraient être considérées comme abusives. Écoutez la e-safety commissioner Julia Inmam Grant.
So, for instance, the day that the minister tabled her final rules with the prime minister, Google put out a blog indicating that they were rolling out age assurance on YouTube in the United States. They will be using that same infrastructure to roll out age assurance technologies for Australians. So we know that they're capable of that today, and we will certainly be watching and expect that they would do the same in compliance with Australian law.
L'Australie pourrait subir une perte de richesse cumulée de 4200 milliards de dollars d'ici la fin du siècle en raison du changement climatique et plus de 600 milliards de dollars pourraient disparaître du marché immobilier selon l'évaluation nationale des risques climatiques. Le rapport indique également que les risques côtiers liés au changement climatique pourraient mettre 3 millions de personnes en danger d'ici 2090 si l'Australie se réchauffe de 3 degrés. Le ministre du changement climatique, Chris Bowen, affirme que le rapport montre que les Australiens auront également de plus en plus de difficultés à assurer leur logement.
The report makes clear that insurance will become increasingly a challenge, both in terms of affordability and availability, and that will have flow-on effects in the economy. I don't think that's a great surprise or secret. Already, in parts of Australia, the insurance market is challenged. Look, I think it's important to say that I think many Australians will find this report confronting. I don't think many Australians will be particularly surprised that climate change is and will have an impact on Australia.
La première du Victoria, Jacinta Allen, est en Chine pour lancer la stratégie chinoise de l'État qui guidera ses relations avec la Chine pour les 5 prochaines années. Dans un communiqué, elle espère que cette stratégie fera du Victoria la première destination pour les entreprises chinoises souhaitant innover et investir et la destination de choix pour les Chinois souhaitant visiter et étudier. La première, Jacinta Allen, a annoncé la relance d'un programme d'échange de bourses dès le premier jour de sa visite officielle en Chine. Ces bourses s'inscrivent dans une stratégie plus large que l'État du Victoria a élaborée pour ses relations avec la Chine. La première a annoncé la signature d'un protocole d'accord établissant un groupe de travail chargé de piloter la coopération éducative du primaire à l'enseignement supérieur.
A strategy that's built on that friendship but firmly looks to the future and looks to the opportunities ahead, whether it's in areas like agriculture, in tourism, in innovation, in medtech, but there's also so many more, but particularly with a key focus on education.
La visite de la première intervient quelques semaines après la présence controversée de son prédécesseur Daniel Andrews au défilé militaire de Pékin aux côtés des dirigeants russes et nord-coréens. Le chef de l'opposition de l'État du Victoria, Brett Batten, n'a pas souhaité s'exprimer sur le lien entre les deux visites, mais a déclaré que le Victoria avait besoin de partenariats et de marchés multiples. Selon le sondage News Poll, la coalition a enregistré son pire score des votes primaires depuis 40 ans, avec 27% des voix contre 36% pour le Parti travailliste. Le sondage indique également que seuls 31% des personnes interrogées préfèrent la chef de la coalition, Susan Lee, au poste de première ministre, contre 51% pour le Parti travailliste, Anthony Albanese. Angus Taylor, qui, avec Jacinta Nambi-Jimpa-Price comme colistière pour leur candidature à la direction du Parti libéral en mai, a déclaré sur ABC qu'il pensait que Mme Price devrait rester au sein du Parti libéral suite à ses propos sur l'immigration et la communauté indo-australienne. Angus Taylor admet toutefois que le parti a encore beaucoup à faire reconquérir les électeurs.
And Jacinta will play a role, no doubt, but the whole team needs to buckle down and get on with the hard work of rebuilding and putting ourselves in a position where we have policies that are in line with our core liberal values and are competitive for the next election.
Le chef du Parti libéral de Nouvelle-Galles du Sud, Mark Speakman, affirme qu'il va continuer à donner le meilleur de lui-même à la tête du parti, alors que les spéculations vont bon train quant à la possibilité que ses collègues lui lancent un défi. Cet événement intervient alors que le Parti travailliste a remporté un nouveau siège au Parlement de l'État en remportant l'élection partielle de Kiama le week-end dernier. Ce siège était auparavant occupé par l'ancien député Gareth Ward, condamné maintenant pour agression sexuelle. Mark Speakman a déclaré sur l'ABC que cela avait freiné le vote libéral, tout en affirmant que ce résultat décevant ne témoigne pas de la solidité de sa position.
Not at all. I am the best person for the job. I've got the experience. I think I've got the principles. And I think the practical application to take the party to the next election.
Le Premier ministre Anthony Albanese a révélé l'ampleur de l'implication de son gouvernement dans le traité avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui prévoit une intégration plus poussée des forces de défense des deux pays. Le traité signé hier lundi permettra à l'Australie et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de recruter des soldats dans leurs pays respectifs, tandis que les citoyens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourront acquérir la citoyenneté australienne en servant dans les forces armées australiennes. Anthony Albanese affirme que ce traité de sécurité revêt une importance capitale pour l'Australie.
It's an upgrade in our security relationship. To a treaty level, to the sort of level that we have with the United States and our important allies.
Raylene Cooper, gardienne de Madu Tenera, déclare qu'elle envisagera de contester en justice la décision du gouvernement d'approuver l'extension du projet Woodside Northwest Shelf. Elle qualifie la décision du ministère fédéral de l'Environnement, Murray Watt, de absolument honteuse et effroyable. Madame Cooper se bat pour la protection de l'art rupestre classé au patrimoine mondial dans le nord de l'Australie occidentale à proximité du projet gazier de Woodside. Elle a notamment déposé une demande en 2022 soulevant des inquiétudes quant au projet du plateau et à ses conséquences. Madame Cooper affirme que l'approbation du projet Woodside Northwest Shelf par le gouvernement fédéral constitue une trahison envers les autochtones.
Myself, my team, my legal team are looking more into this. We're already noticing and identify that there's quite a lot of issues in regards to the Northwest Shelf, some pretty damning issues. So be expecting more than just some words. We are looking at, right now, and I'm going to make a statement to it, legal challenges on the Northwest Shelf because there's lots to challenge.
Les Verts ont accusé le Parti travailliste de ne pas avoir atténué les risques climatiques pour les Australiens en approuvant ce projet gazier de Woodside. Le parti affirme que le rapport devait être publié en 2024, mais que ce retard signifiait que le Parti travailliste était conscient du soi-disant, je cite, « sombre avenir climatique de l'Australie » avant d'approuver la prolongation la semaine dernière. La chef des Verts, Larissa Walters, affirme que ce rapport est un signal d'alarme pour eux. Les travaillistes.
Australians have had enough of their safety, their cost of living and their security coming last after the profits of Woodside, of Glencore, of the other big coal and gas companies that make big donations to both sides of politics and get to write their own rules. People are sick of the system being rigged against them and favours being done for big corporations while their very security and way of life is at risk.
Le Premier ministre Anthony Albanese déménagera de son bureau électoral à Sydney. Le bureau à Marrickville, dans la circonscription de Greenla à Sydney, est depuis longtemps la cible de manifestations, notamment liées à la guerre à Gaza. Le Premier ministre a invoqué ces manifestations pour justifier la résiliation du bail après près de 30 ans. Il affirme que le propriétaire, apparemment l'église anglicane d'Australie, ne pouvait plus tolérer ces perturbations. Certains critiques ont affirmé que cette décision créait un précédent dangereux et ne ferait qu'encourager les manifestants qui suivraient le Premier ministre jusqu'au nouveau lieu qui n'a pas encore été annoncé. Anthony Albanese a déclaré sur Channel 7 qu'il pensait que les manifestants sapaient leur propre cause en ciblant les bureaux des parlementaires.
People being denied access to assistance on the NDIS or Centrelink or Medicare, that doesn't advance any cause in the Middle East. All it does is disrupt people and alienate people from the cause that the protesters are purporting to support.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 19, Hobart 17, Canberra 21, Sydney 28, Brisbane 26, Darwin 33 et à Alice Springs un maximal de 31 degrés. Voilà, fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi. Et 14 minutes, vous écoutez le programme en français et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les sports de ce mardi 16 septembre et on commence avec les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Tokyo au Japon et bien sûr une performance qui marque encore l'histoire, celle de Armand Duplantis. Le Suédois a remporté le troisième titre mondial de saut à la perche de sa carrière, battant par la même occasion son propre record du monde et ce pour la 14e fois. Il a atteint désormais 6m30, de quoi être fier, Armand Duplantis.
Je suis super content, bien sûr, d'avoir dépassé les 6m30, cette nouvelle barrière, ce nouveau point de repère pour ma discipline et d'avoir pu obtenir ce troisième titre mondial comme j'ai pu le faire. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est très spécial. Je pense qu'il y a encore de la marge. Je vais juste continuer d'aller de l'avant et toujours essayer de faire de mon mieux. Mais pour l'instant, je veux juste profiter. Je ne dirais pas que c'était si facile. Je savais que c'était possible. J'avais juste besoin d'un saut vraiment parfait. Je ne me rends pas toujours compte du niveau de difficulté, mais il y a beaucoup de travail pour rendre les choses faciles. Je deviens juste meilleur pour gérer les situations difficiles et la perche est très difficile.
La réaction du français Renaud Lavilloni, arrivé en 8e position et champion olympique en 2011.
Il faut juste savourer le moment, applaudir la performance qui est juste majuscule, accepter de se dire que c'est des moments historiques et on a la chance de les vivre, quoi. Tout simplement. C'est phénoménal. Il montre qu'il ne se met pas de limite. Et puis il est capable en fait d'être actuellement depuis 5 ans le meilleur le jour le plus important. Il n'a pas de défaillance ou tout du moins très peu et ça c'est quelque chose qui est exceptionnel. Je pense qu'on peut tous lui faire confiance sur le fait que il y en aura peut-être d'autres. C'est monumental.
Voilà pour le français Renaud Lavilloni arrivé à 8e et le premier français c'est Thibaut Collet, il est arrivé 5e. Autre temps fort de ces mondiaux d'athlétisme à Tokyo, c'est un sacre inattendu sur le 100 mètres haies, comme nous l'explique Baptiste Leduc pour RFI.
C'est celui de la Suissesse Ditaji Kambudji. Elle a réalisé une course exceptionnelle au couloir 3. Aucune erreur, un chrono en 12 secondes 24 pour aller chercher la médaille d'or. Ditaji Kambudji devance la Nigériane Toby Amusan, détentrice du record du monde, et les Américaines Grace Stark et Masai Russell, qui étaient pourtant favorites de cette finale du 100 mètres haies.
Ce championnat a aussi été marqué par l'exploit du français Jimmy Gressier. Il a été sacré champion du monde sur 10 000 mètres au terme d'une remontée au sprint dans la dernière ligne droite. C'est le plus grand titre de sa carrière, 13e des JO sur la même distance il y a un peu plus d'un an. Il est le 9e athlète français à décrocher un titre de champion du monde en individuel et le premier depuis Kevin Mayer, titré il y a 3 ans au décathlon. Au 100 mètres, c'est un doublé jamaïcain. Oblique Sevilla a remporté le titre mondial en 9 secondes 77, battant ainsi son propre record personnel et devançant son compatriote Keshan Thompson, 9 secondes 82, et l'américain Noah Lyles, 9 secondes 89. Ensuite, les marathons. La Kenyane Peres Jepchirchir, championne olympique à Tokyo 2020, est arrivée première avec un chrono de 2h24.43, 2 secondes seulement devant l'éthiopienne Tigs Assefa. La française Manon Trapp a terminé, elle, 32e en 2h36.09. Côté homme, incroyable dénouement là aussi du marathon, puisque le Tanzanien Alphonse Félix Simbu a été sacré à la photo finish. Il a fallu regarder la photo pour savoir qui était arrivé premier. Eh bien, c'est le Tanzanien. Il est arrivé devant l'Allemand Amanal Petros en 2h09.48. L'Allemand a été battu de, accrochez-vous, 3 centièmes. Quant à l'Australie, pas moins de 80 athlètes sont présents au championnat, dont le jeune prodige Goodgood. Il fera ses débuts aux 200 mètres dans quelques jours, on l'écoute. Et l'Australien Sacha Zoya, il concourt pour la France. Il s'est d'ailleurs qualifié pour les demi-finales du 110 mètres haies qui aura lieu ce mardi. À confirmer s'il y participe ou non à cause de nombreuses blessures. Et donc, on le disait, il porte un dossard français, mais c'est un athlète australien dans le cœur et dans le sang. Écoutez.
Hey, I'm a boy from Boorloo, Whadjuk Land, Perth, WA. Just always remember that. Even if I got France on my chest, the blood inside's Oz. This is the fun part. You know, Usain Bolt always says competing is the fun part, training's the annoying, boring bit. I've done a lot of training in my life, and these are the moments that I've been living for and I've been waiting for. So, as long as the body's agreeing with me a little bit, I'm going to push it to the max. But I've got to be really listening to it. And if it's going to tell me stop, then I'm going to have to stop. But with all my heart, I want to be out there and competing, and it's what I love to do.
Autre mondial aux Philippines, cette fois celui de volleyball masculin. Début réussi de l'équipe de France, victoire 3-0 face à la Corée du Sud. Les champions olympiques en titre vont devoir confirmer leur bon début contre la Finlande et l'Argentine en poule. S'ils rêvent de victoire, on rappelle que les Bleus n'ont jamais fait mieux qu'une troisième place aux mondiaux de volleyball dans leur histoire. Victoire tricolore également pour le 15 de France de rugby féminin à la Coupe du Monde au Royaume-Uni. 18-13 face à l'Irlande, les Françaises affronteront les redoutables Anglaises en demi-finale. Première édition en France ce week-end de la Fête du Sport. Plus de 73 fédérations ont proposé des animations et des initiations sur la rue de Rivoli. Sylvie Coffi y était pour Radio France Internationale.
Aminata a le sourire.
C'est une journée qui nous fait revivre un peu les JO, parce qu'on est très nostalgique des JO. C'est tellement ancré dans nous, nos enfants, on a tellement rêvé l'année dernière.
Elle vit un rêve éveillé et ses enfants aussi. Ils viennent d'avoir un selfie et un autographe avec une championne olympique.
Marie-Josée Pérec, je suis très contente vu que c'est une athlète qui a quand même fait des Jeux olympiques, qui est très forte, qui court vite et j'aime bien.
Sur plus de 2 km, la rue de Rivoli s'est transformée en un boulevard du sport. Jonathan et ses amis se lancent sur l'épreuve reine du 100 mètres.
C'est sympa, on va essayer, on a trouvé une petite bande là pour faire la compète.
Ils ont peur de glisser, donc je leur ai dit de ne pas pousser dans les starts.
Là, on va se mesurer avec des grands champions.
Et les médaillés d'or des Jeux Olympiques ne sont pas loin. Au pied de l'hôtel de ville, l'équipe de France de Cécifoot retrouve le temps d'un match ses supporters.
Frédéric Villeroux, le capitaine.
C'est un honneur d'échanger avec eux, partager des moments, les faire pratiquer. C'est un plaisir et en tant que sportif, gagner une médaille chez soi, je pense que c'est la concrétisation de la vie et de la carrière d'un sportif.
Une fête du sport où les grands comme les petits ont pu pratiquer, s'initier et découvrir différentes disciplines sportives.
Malgré la joie lors de l'événement, on n'oublie pas que l'enveloppe de l'État français consacrée au sport a été rabotée depuis un an, depuis les Jeux de l'année dernière. Et surtout pas le principal intéressé, Tony Estanguet, président de Paris 2024.
C'est sûr que je regrette bien évidemment la manière avec laquelle le sport a été traité dans les derniers arbitrages budgétaires. Je continue à être convaincu que le sport est très important pour notre société, que les Français ont besoin d'avoir ces moments de sport, qu'ils soient dans les grands événements mais aussi au quotidien, dans leur structure, leur club local. Donc moi je continue à défendre l'importance d'accompagner le mouvement sportif, de le financer. Je pense que c'est un bon investissement. On a bien vu que ça rejaillit sur le moral, sur la santé, sur le vivre ensemble, sur le lien social. Et c'est pour ça que je continuerai à soutenir le monde du sport français en appelant les leaders politiques à le soutenir, parce que je crois que c'est vraiment très important.
Voilà pour la réaction de Tony Estanguet. Autre réaction à propos de cette coupe budgétaire, celle de Amélie Oudéa-Castéra, l'ancienne ministre des Sports, aujourd'hui présidente du Comité national olympique et sportif français, a réagi.
On a besoin vraiment d'avoir un soutien de la puissance publique. Nous, on fera notre part d'effort, mais on ne doit pas subir des efforts disproportionnés. Parce que derrière, c'est des équipements qu'on ne va pas construire, c'est des jeunes qu'on ne va pas accueillir dans nos clubs, c'est un tissu associatif qui se fragilise, c'est des athlètes qui risquent d'être moins bien soutenus demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux vraiment tirer la sonnette d'alarme sur l'évolution des budgets du sport. C'est moins de 0,10% du budget de la nation. Donc, quand on baisse beaucoup les budgets du sport, on lui fait très mal, on l'asphyxie, on l'abîme. Et surtout, c'est des mauvais calculs économiques parce qu'en plus, aujourd'hui, notre pays, il engloutit 160 milliards d'euros dans la sédentarité, dans l'obésité, dans la lutte contre tout ça. Et en fait, c'est pas rationnel. Donc sur tous les plans, parce qu'on en a besoin pour notre qualité de vie, c'est ces messages qu'on doit porter. On est des gens responsables. Chacun doit faire sa part d'effort, mais cette part, elle doit être juste et proportionnée.
Le football, jour de reprise pour la Ligue des Champions et un grand rendez-vous ce mardi à Madrid, comme nous l'explique Baptiste Leduc.
Le Real, 15 fois vainqueur de la Coupe aux Grandes Oreilles, accueille l'Olympique de Marseille dans son antre du Santiago Bernabéu. Les Marseillais de retour dans l'épreuve après 3 ans d'absence et qui viennent de renouveler copieusement leur effectif. Une équipe que connaît bien le milieu de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, et il s'en méfie.
Marseille, on sait que voilà, c'est une super équipe du championnat français. En tant que Français, je le sais particulièrement. Évidemment qu'il y a eu pas mal de changements. On l'a vu entre l'équipe qui a commencé le championnat et l'équipe qu'on va affronter demain. Le match auquel je m'attends, un match difficile. On joue la championne, on jouera toujours contre de belles équipes. Donc il va falloir qu'on donne le maximum pour pouvoir gagner ce match-là. Et on sait que demain, on va avoir affaire à un adversaire qui va nous poser des problèmes. Mais comme je l'ai dit, ça dépend de nous. On se doit de jouer à notre niveau et de faire en sorte de pouvoir gagner ce match. Donc on a hâte d'être à demain.
Et football toujours, on apprend que Samuel Umtiti a annoncé la fin de sa carrière professionnelle.
Formé à l'Olympique Lyonnais, il était sans club depuis la fin de son contrat à Lille cet été où il avait très peu joué. Samuel Umtiti, on s'en rappelle, c'était un des piliers de la victoire à la Coupe du Monde des Bleus en Russie en 2018, buteur en demi-finale contre la Belgique. Mais depuis, des blessures incessantes lui ont fait perdre peu à peu le fil de sa carrière et l'ont donc poussé à raccrocher les crampons à seulement 31 ans.
Allez, on passe au cyclisme. Double lauréat du Tour de France, mais malheureux second cette année, il s'est consolé à Madrid. Le Danois Jonas Vingegaard, 28 ans, a remporté son premier Tour d'Espagne. La Vuelta s'est achevée dans le chaos dimanche à Madrid, où la 21e et dernière étape a donc été abrogée en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes. Les podiums et cérémonies protocolaires ont été annulés, ce qui n'a pas changé le résultat final puisque c'était déjà joué. Vingegaard l'emporte au final avec 1 minute 16 d'avance sur le Portugais João Almeida et le Britannique Tom Pidcock complète le podium. On l'écoute.
Yeah, I don't really know what to say, to be honest. I'm pretty proud of myself. I think it's definitely the biggest performance of my career. Maybe not the biggest. Yeah, single win. I think some more have been more special, but yeah, I think I'm a bit exhausted actually, to be honest. I can't really find any words.
Un mot de basket, les Allemands champions d'Europe, ils ont arraché la victoire à la Turquie, score final 88 à 83. Nouveau trophée pour l'Allemagne après champion du monde il y a 2 ans. Et leur dernier titre européen, c'était il y a plus de 30 ans, en 1993. Et enfin, on termine avec de la Formule 1, puisque lors du padel alpine Paris-Major, eh bien le Français Pierre Gasly a évoqué sa situation au sein de l'écurie de F1 alpine. Écoutez-le.
J'ai vraiment beaucoup d'optimisme sur l'avenir. Dès 2026, je pense que ça va être très clairement un projet très différent avec tous les changements qui s'opèrent dans l'équipe. Et voilà, cette saison, elle est difficile, on le sait. On sait les raisons pour lesquelles on est en difficulté. On a voulu se concentrer sur la voiture de l'année prochaine. Il y a eu beaucoup d'efforts. Le développement, il a été arrêté assez tôt. Donc voilà, tout ce que je vois dans l'équipe, les promesses qui m'ont été tenues, je pense qu'on a tous les ingrédients pour réussir dès la saison prochaine et sur les années à venir. Donc j'ai hâte.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce journal des sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.
h 28 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. 13h35 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Robert Pledge de la dotation Catherine Leroy qui va nous parler de cette photojournaliste et dont les photographies sont exposées au Ballarat International Photo Biennale ici en Australie jusqu'au 19 octobre. Robert Pledge, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, de si loin d'ailleurs, de très loin même.
Et on va parler de cette exposition de photographie ici en Australie qui s'appelle Catherine Leroy, One Way Ticket to Vietnam 1966-1968. D'abord, peut-être parlez-nous de Catherine Leroy.
Oui, l'exposition porte bien ce titre, One Way Ticket to Vietnam, qui est celui du livre qui sort d'ailleurs prochainement et qui existe en une version anglaise aussi, One Way Ticket to Vietnam. Donc, Catherine Leroy, c'est un personnage un petit peu, j'allais dire, à la fois mythique et oublié. Elle est quelqu'un qui a eu une reconnaissance certainement dans des milieux professionnels parce qu'elle était la seule photographe de guerre, de combat, ce que vous voulez, au Vietnam dans les années 60, dans les années américaines de la guerre les plus américaines, c'était 66, 67, 68, les plus intenses. Il y avait nombreux journalistes, beaucoup de photographes également, de toute nationalité, mais pas de femmes. Elle était la seule. Il y avait bien une femme qui l'avait précédée, une américaine, Dickie Chappelle, qui a été tuée en novembre 65, donc juste 4 mois avant l'arrivée de Catherine Leroy, qui ne connaissait d'ailleurs pas du tout ce photographe tout à fait remarquable. Donc, elle a été la seule pendant ces 3 années-là, et absolument acharnée. C'est une jeune Française qui vient d'un milieu, qui venait d'un milieu plutôt conservateur, traditionnel, très, très, assez religieux, etc., et qui était un peu en rébellion contre l'environnement dans lequel elle vivait, et qui, en tous les cas, était destinée au départ à une carrière musicale, de pianiste, de musique classique, mais elle a bifurqué sur le jazz et puis sur l'Amérique et puis finalement sur le Vietnam qui était l'événement le plus important sur le plan mondial, international à cette époque-là. Un conflit évidemment dans le cadre de cette guerre froide qui était chaude au Vietnam bien sûr, mais entre le bloc des communistes et le bloc des capitalistes et voilà. Et donc, elle s'est plongée là-dedans parce qu'elle était curieuse de connaître ce qui se passait sur le terrain.
Et donc, comme les GIs qui étaient au Vietnam, elle avait presque le même âge qu'eux.
Alors, ça, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que, et souvent, d'ailleurs, un malentendu, parce que beaucoup de gens croyaient qu'elle était comme ça, elle défendait la position américaine dans la guerre, elle soutenait le projet, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce n'est pas vraiment ça du tout. Ce qui l'a vraiment marqué, c'est que quand elle a débarqué, elle s'est rendue compte que ces soldats avec qui elle partait en opération quasiment toutes les semaines, elle est le seul journaliste d'ailleurs, de la presse écrite ou photographique, etc., qui passait autant de temps en opération militaire au Vietnam pendant ces 3 années-là, ces 3 années très intenses, et Michel Ray en parle d'ailleurs dans son livre. Donc elle passait un temps fou et donc elle a bien connu ces soldats. Et ces soldats étaient des appelés pour la plupart. Ils étaient appelés, ils n'étaient pas professionnels. L'encadrement l'était en partie, mais c'était des jeunes qui venaient de toutes les régions des États-Unis et qui avaient exactement le même âge qu'elle, 21 ans. Elle avait 21 ans quand elle a débarqué, elle avait 23 ans quand elle a quitter le Vietnam, et ça c'était l'âge moyen des soldats américains qui se trouvaient là, Et je crois que c'est ça qui l'a vraiment marqué. D'abord, elle s'est identifiée, elle les comprenait, elle aimait les mêmes musiques, elle s'intéressait aux mêmes choses. C'était l'époque où, évidemment, l'Amérique était à 20 ans après la fin de la guerre, ou 15 ans après la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique était en vogue, naturellement, pour un tas de raisons. Mais elle a compris qu'il y avait un phénomène de génération là. Alors, c'est pas tant qu'elle s'intéressait strictement à la guerre, elle s'intéressait bien sûr aussi aux victimes de la guerre, aux enfants, aux femmes, aux mères, etc., à ceux qui étaient tués de l'autre côté, l'ennemi, ou les suspects de complicité avec l'ennemi des Américains. Mais ce n'était pas ça. C'était cette question de génération à laquelle elle appartenait, quoi. C'était, en fait, les baby boomers, si on veut.
Et donc, elle est partie au Vietnam avec un one-way ticket, comme on dit, et on lui offrait $15 la photo, et elle a signé le contrat, c'est ça?
Oui, alors, elle n'avait même pas vraiment de contrat, il y avait un contrat oral verbal entre elle et les agences, verbales, et les agences filières avec lesquelles elle travaillait, UPI, mais principalement Associated Press, AP, la plus grande de toutes, avec qui elle avait une relation forte au cours de la première année, la première moitié de son séjour, notamment parce qu'il y avait un rédacteur en chef qui était photographe lui-même, un Allemand, Horst Fass, qui était très protecteur de ces photographes et qui a été totalement fasciné par le personnage de Catherine Leroy et lui a donné une chance, la seule femme, de pouvoir travailler pour cette association, pour la Société de Presse. Et c'est comme ça qu'elle est partie, mais elle venait, voilà, c'est une aventure, elle est partie. Elle serait partie plus tôt même si elle avait pu obtenir un passeport plus tôt qu'elle ne l'a pu, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans. À l'époque, on ne pouvait obtenir de passeport qu'avec l'autorisation parentale à cette époque-là, ce qui fait qu'elle a patiemment attendu d'avoir 21 ans. Elle a économisé des sous, elle était déterminée. Elle avait abandonné le projet d'une carrière musicale classique et était totalement déterminée de se rendre au Vietnam parce qu'elle était fascinée par le fait que c'était d'une part l'événement le plus important qui existait, mais aussi parce qu'il y avait une relation aussi avec la France. Le Vietnam, c'était l'ancienne Indochine française, oui. Et qui avait évidemment, quand elle était jeune, dans les années 50, c'était la guerre franco-indochinoise, et Dien Bien Phu en 1954. Donc c'est quelque chose qui avait une résonance chez elle. Et elle était curieuse de comprendre ce qui se passait dans ce pays et pourquoi de l'Indochine c'est devenu le Vietnam et pourquoi c'est devenu quelque chose d'aussi significatif. Elle était simplement curieuse et elle voulait être photographe de guerre, couvrir cette guerre.
Peut-on parler de la photographie qui est entrée dans l'histoire, la photographie où elle a capturé le visage d'un Marine qui tient dans ses bras un camarade mort, je crois que c'était en 1967, sur la colline 881.
Oui. C'est ça, exact. Alors, d'ailleurs, précision aussi, c'est que le personnage que l'on voit avec un regard très angoissé qui essaye d'apporter secours à un marine tué. Lui-même n'est pas marine. Les marines n'avaient pas de personnel médical. C'était des gens de la marine, mais pas des marines, de la marine, la Navy, si on veut plus être précis, qui étaient les infirmiers des marines. Et donc, ça, évidemment, ça, il y a une confusion. Et elle était au pied de la colline 881 quand des premiers assauts ont eu lieu, extrêmement difficiles, dans un terrain terrible, d'abord en pente et qui avait été largement bombardé et qui était étouffé par les broussailles et les branchages de toutes sortes. Et quand elle a vu ce marin aller au secours du marine, elle l'a suivi, c'est-à-dire elle a crawlé derrière lui, lui-même a crawlé pour grimper la colline, la pente vers le blessé qui en fait était mortellement blessé, il n'a pas survécu, et elle était à quelques pas derrière lui présente dans la broussaille parce que ça canardait de côté. Et elle a fait une extraordinaire série de 8 images, dont une est perdue d'ailleurs, le négatif est perdu, et 5 de ces images sont d'ailleurs dans l'exposition, elle-même à Ballarat, bien sûr. Et c'est un moment extrêmement fort, d'une part parce que là, encore une fois, on comprend. Ce marine, il avait cet infirmier, il avait 19 ans. Et celui qui a été tué, il en avait 20 ou 21 peut-être. C'est-à-dire, encore une fois, c'était des gens de sa génération. Et je crois qu'avec les années qui passaient, les mois qui passaient, elle s'est rendue compte du gâchis terrible que représentait ce conflit pour cette génération. Et que c'était des morts certainement inutile, des soldats appelés qui ne savaient pas très bien en fait pourquoi ils étaient là, mais qui faisaient preuve d'un courage et souvent d'un héroïsme étonnant compte tenu des circonstances, parce que l'ennemi, leur ennemi, était un ennemi invisible. Ouais. Jamais ils ne voyaient de soldats de l'autre côté. C'était quelque chose d'hallucinant et qui crée évidemment énormément d'anxiété. Et même avec tous les hélicoptères du monde et tout l'équipement militaire, ça a été pour l'armée américaine un combat extrêmement difficile. L'ennemi était invisible.
13h. 51 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'Australie va suspendre l'exploitation forestière sur une vaste étendue de forêt de la côte est en Nouvelle-Galles du Sud afin de créer un refuge pour les koalas, tentant ainsi de sauver la population locale de l'extinction. Reportage de SBS News. Il compte parmi les espèces les plus précieuses et les plus appréciées d'Australie. Mais des études montrent que si rien n'est fait, les koalas pourraient disparaître en Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2050. Un projet du gouvernement de l'État visant à créer une nouvelle zone protégée, le parc national du Grand Koala, vise à changer la donne. Ce projet bénéficie du soutien de Dermot O'Gorman, directeur général du World Wildlife Fund Australia.
Over the last few decades, we've seen koala numbers drop. The bushfires of 2020 devastate their populations, and so creating a home for more than 10,000 koalas on the mid-north coast of New South Wales as a sanctuary to turn round koala numbers and bring them back into the bush and into communities is a really crucial part of what the Great Koala National Park will achieve.
300 000 hectares répartis sur plusieurs parcs nationaux, répartis sur la côte nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ont déjà été attribués au parc national du Grand Koala. Une nouvelle annonce du gouvernement de l'État ajoute 176 000 hectares à la proposition, reliant ainsi plusieurs parcs nationaux pour créer l'un des plus grands de Nouvelle-Galles du Sud. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré que le parc va contribuer également à la protection du grand planeur, un autre marsupial menacé originaire de la région.
We can't have a situation where 2 decades or 3 decades down the track, they're gone from our communities. Future generations ask why. Well, the decision needs to be taken today to protect this most important threatened species.
Jackie Mumford, directrice générale du Nature Conservation Council of New South Wales, partage l'enthousiasme du Premier.
This is one of the most significant conservation outcomes that we've seen in years. One in five of New South Wales koalas will be protected in the national park. And that's without even mentioning the tens of thousands of greater gliders and up to 100 other threatened species of flora and fauna.
Mais le projet du nouveau parc n'est pas sans controverse. Le gouvernement a déjà imposé une pause dans l'exploitation forestière à l'intérieur des limites du parc proposé en prévision de son prochain statut de parc protégé. L'industrie du bois prévient que cette mesure va entraîner une perte de 730 millions de dollars par an pour l'économie, des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises et une hausse du prix des poteaux électriques et des matériaux de construction. James Joost est le directeur général de l'Association australienne des produits forestiers. Il affirme que l'association professionnelle a suggéré un compromis sur la taille du parc lors des consultations, mais que le gouvernement l'a ignoré.
We said you can have both. You can deliver your election commitment for a great koala national park and also have a sustainable timber industry on the other side of this. Those two options were ignored by the New South Wales government and they've gone for the largest possible park, meaning that the timber industry on the north coast will be gutted by this. That is the largest, most productive area for public hardwoods on mainland Australia.
Chris Minns affirme que la décision a été difficile et bien réfléchi.
There was a real temptation to take a compromise in relation to the size of the park, to protect more industry and narrow and shrink the size of the Great Koala National Park. In the end, my colleagues and I, we made a decision that that would be the worst of all worlds. There would be an economic impact on the industry, but we wouldn't be solving the reason for the Great Koala National Park, and that is so that there can be long-term preservation.
La fermeture de l'exploitation forestière va affecter 6 des 25 scieries de la région et entraînera la perte d'environ 300 emplois. Le gouvernement prévoit de couvrir les salaires des travailleurs grâce à une allocation de type allocation chômage, de proposer des services de conseil et de formation et d'apporter une aide financière aux entreprises touchées. Un programme de 6 millions de dollars va soutenir également de nouvelles opportunités pour le tourisme et les petites entreprises sur la côte centre-nord. Cela s'ajoute aux 140 millions de dollars déjà annoncés pour la création du parc. James Joost, de l'Association australienne des produits forestiers, estime que c'est loin d'être suffisant.
Funding announced today is a fraction of the cost for a decision of this size. The timber industry has put the figure for this 176,000 hectare park at $1.3 billion to taxpayers. That cost is immense and it will be felt not just in the day after tomorrow, but in the months, weeks and years to come as well.
La députée de Nouvelle-Galles du Sud pour la côte nord, Janelle Saffin, vante les avantages du parc pour l'économie locale.
The Great Koala National Park also will provide an economic boon for locals and businesses alike. It will become a great tourist park, the Great Koala National Park, just like the panda parks in China. This will be our iconic park, not only in the North Coast, but in Australia.
Pour sa collègue, la ministre de l'Environnement, Penny Sharp, la création de la zone de conservation est une vision d'avenir.
We don't want to be the case where our grandkids can only see them in zoos. This is why this decision is so important. It's important for today, but it's also really important for tomorrow.
Ce reportage de Edwina Guinan de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, l'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi. Le député du Parti libéral, Andrew Hastie, se dit prêt à démissionner si son parti n'abandonne pas l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le premier du Victoria, Jacinta Allen, est arrivé en Chine pour lancer la stratégie chinoise de son État qui guidera ses relations avec la Chine pour les 5 prochaines années. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission du 16 septembre. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à 13h. Belle journée. À bientôt.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.